Nous allons encore se mettre à 7h tardive, puisque les présentations commencent à s'éterniser un petit peu dans la soirée, dans la nuit d'Avignon. Nous allons parler aujourd'hui de trois spectacles. Le premier avec Eric Fisbeck qui est à mes côtés. Ensuite, nous parlerons de Grounding, la mise en scène de Christophe Bartanel au théâtre municipal. Et ensuite, nous finirons avec une des deux productions qu'on va pouvoir voir pour cette 58e édition du Festival d'Avignon, Deux Voix, qui va être présenté Olympia. Donc, on va commencer tout de suite avec Frédéric Fisbeck, mais auparavant, j'ai deux petites annonces à vous faire. Une qui est très anticonférentielle, puisque ça se déroule à midi. C'est au gymnase du lycée Saint-Joseph, et c'est la première lecture mise en espace proposée par Thomas Ostermeyer. Il commence aujourd'hui avec Electricity, notre manière de vivre, qui est un texte allemand de Frank Richter. Et puis, un autre abéné, moins concurrentiel, puisque c'est de 15h à 17h, c'est le premier débat du cycle Théâtre des idées, lu par Vincent et Hortense. Donc des philosophes, des penseurs face à la question du théâtre et de la société. Le premier débat a donc lieu toujours au gymnase du lycée Saint-Joseph à 15h avec Jacques Derrida autour de la question de la vieille Europe et de la nôtre. Donc voilà les annonces. Le feedback, bonjour. Vous êtes avec Aurélie Sillier, qui est la première sortante de la section mise en scène du Théâtre National de Strasbourg, et avec laquelle vous avez travaillé, mais aussi avec Robert Contarella, pour un cycle de lecture de classique. On aura l'occasion de parler. Vous êtes tout de suite d'ailleurs, c'est ma première question au vu de la programmation. Au vu de la programmation des mouvements, vous étiez peut-être un petit peu un archéologue du théâtre en choisissant dans une programmation très très contemporaine un texte écrit en 1635 par Pierre Corday, donc Illusion comique, qui est cette édition un texte plus vieux qu'on puisse entendre en Avignon. Donc est-ce que vous vivez comme un archéologue du théâtre dans cette édition?
Non, vous ne faites pas du tout archéologue, je n'ai rien qui fait l'archéologue, ils sont formidables. Mais non, absolument pas, c'est simplement un goût pour la langue et pour les écritures, de la même manière qu'on peut tomber en arrêt dans l'écriture qui jaillit aujourd'hui, de la même manière. Et dans le même mouvement, je dirais presque, en tout cas dans un mouvement de retour, moi j'ai besoin de retourner aux sources. Donc c'est pas tant archéologue, mais c'est simplement se mettre à l'épreuve d'un âge de la langue aussi, d'un âge de la langue française. Voilà.
Alors vous aviez présenté il y a 2 ans, je crois maintenant, Jérémis. De Racine, j'ai vu ça il y a 3 ans. Bérénice, donc de Racine, cette fois-ci vous venez avec l'illusion comique de Corday. Est-ce que vous faites un lien dans votre démarche, dans votre travail entre ces deux textes et ces deux approches?
Le lien, il y a une espèce de lien d'époque, mais en tout cas sur les travaux, pas du tout. La mesure où Racine et Corday, c'est vraiment très 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 différent. Et en plus avec pour Racine, on avait travaillé avec un remonté, donc il y a un chorégraphe, on avait fait un travail qui me semble était un tout petit peu différent. Je dirais que la grosse différence, en tout cas pour moi, entre Racine et Corday, c'est que Racine, c'est vraiment un poète dramatique, au sens où il propose un monde totalement singulier et qui est le sien et qui s'abstrait d'une certaine manière aussi. Il y a un monde totalement singulier, poétique. Chez Corneille, on sent l'auteur qui écrit pour son époque, on sent un auteur qui écrit dans le souci d'être reçu avant tous ses contemporains et qui ne travaille absolument pas pour la postérité.
Et avec la langue de son époque?
Oui, totalement.
Et c'est cette question de la langue qui vous a intéressé dans l'illusion comique? C'est plus l'idée du théâtre dans le théâtre, c'est l'histoire en deux mots d'un mage qui va faire voir un père les agissements de son fils.
C'est pas comme ça que je le présente, c'est pas comme ça que je le présente. C'est plutôt on voit un. Ça, c'est la pièce 4, c'est-à-dire que c'est un père qui est à la recherche d'un fils avec lequel il s'est fâché très, très violemment. Et ça fait 10 ans, il a cherché partout, il va voir un mage, un magicien qui lui montre. La vie de ce fils depuis, Et il se trouve que ce fils, ayant fui l'autorité du père, ayant fui un certain nombre de contraintes, une vie qui semblait tout tracée pour lui, finit par tomber dans le théâtre, et finit par, en fin de compte, trouver son chemin dans ce lieu bien particulier. Donc je trouve que c'est aussi ça qui m'a donné envie de mettre en scène la pièce, surtout en ce moment, surtout après tout ce qui s'est passé, surtout cette année à Lyon, après l'animation du festival l'année dernière. Il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont poussé à mettre en scène cette pièce maintenant.
Parce que Corneille part de l'intermittence, selon vous?
Non, Corneille ne part pas de l'intermittence. Sauf que Corneille, en 1635, donc quand la pièce est représentée, il écrit en 1634. En 1635, c'est le début d'un mécénat officiel par Louis XIII, via Richelieu, qui pensionne deux théâtres, le Jeu de Paume et l'Hôtel de Bourgogne. C'est la naissance de l'Académie française. C'est en 1641 un édit royal qui qui réintègre les comédiens en tant que sujets du royaume et qui ne sont plus, en ça il est très en avance sur l'Église qui continuera à excommunier les comédiens pendant des années. Le roi dit simplement que les comédiens sont des sujets à part entière. Aujourd'hui on dirait citoyens. Nous sommes des citoyens à part entière. Et ça, c'est fondamental, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a comme ça un phénomène de reconnaissance de la nécessité. Corneille parle d'utilité du théâtre. Et ça, c'est énorme. Donc j'avais envie de revenir aux sources aussi de ça, de ce mécénat officiel, qui on ne peut pas encore parler d'espace public, ni de service public, mais en tout cas, de ce mécénat officiel pour dire que. Voilà, ce système dans lequel on vit aujourd'hui, ce système public d'aide pour l'art et la culture en France, qui est vraiment exceptionnel, c'est-à-dire à une histoire. Et que quand on se bat pour préserver un service public, on ne se bat pas pour préserver des privilèges, on se bat pour préserver une idée, des idées, et que ces idées elles ont un âge et qu'elles viennent du passé. Voilà, c'est simplement cette chose-là.
Mais c'est une façon de rendre Corneille contemporain. C'est ce qui a été premier dans votre décision de monter l'illusion.
Pour moi, Corneille n'est pas contemporain, puisqu'il est mort au XVIIe. Il n'est pas contemporain du tout. La pièce, l'illusion comique, une pièce, elle est contemporaine parce que je la lis aujourd'hui. Donc c'est ça qui la rend contemporaine. Elle n'est pas moderne. Mais je ne travaille pas pour être moderne, je ne suis pas un moderne. Un monsieur qui vit aujourd'hui, un monsieur, je ne sais pas si je suis un monsieur, ou un jeune homme, qui vit aujourd'hui, et voilà, et je lis une œuvre, c'est ma lecture, c'est mon interprétation, c'est mon regard qui est réactif, cette œuvre, qui la rend contemporaine. Voilà, j'ai un peu de sur les mots, mais c'est très important les mots, c'est fondamental.
Alors pour autant, vous dites qu'avec ce texte, en effet, il n'est pas question de rendre Corneille contemporain, il est question d'inventer des formes contemporaines de représentation. Donc ça, c'est vraiment la mission du metteur en scène. Quelle forme vous avez trouvé, cherché pour donner une mise en scène contemporaine de Corneille?
En fait, la pièce, elle se défend très bien elle-même. Il faut savoir que cette pièce, Corneille est souvent rangée dans les auteurs classiques, ce qui est, à mon sens, un proxy un peu rapide. Et en ça, il diffère absolument de Racine et Molière. Corneille, le Corneille qui écrit l'Illusion comique, à 29 ans, qui écrit, et c'est un jeune homme qui est nourri des lectures des auteurs de cette époque, qui sont des auteurs qu'on range dans les pré-classiques ou dans les baroques. Et il faut voir les influences de Corneille. Ce répertoire est très très peu connu en France. Il a été beaucoup occulté, il a été beaucoup ostracisé. Ça fera l'objet de l'intervention d'Aurélien tout à l'heure, parlant d'auteurs comme Beiss ou Bougenot ou Scudéry, des tas d'auteurs qui sont des contemporains de Corneille et qui écrivent un théâtre qui ne ressemble pas du tout, qui ne tient pas compte des trois unités classiques, mais qui s'inspire beaucoup plus du théâtre de l'âge d'or espagnol. On est dans un agencement de formes et dans une fantaisie qui peut pour nous se rapprocher des des pièces de Shakespeare, par exemple, même si on a à peu près la certitude que Corneille n'a pas lu Shakespeare, qu'il a été beaucoup plus influencé par les Espagnols, éventuellement par les Italiens.
Vous expliquez bien la question des formes.
Alors la forme, ben, la forme, voilà, il s'agit de. Essayer comment est-ce qu'on tient compte de ces genres de ces agencements, de ce théâtre en théâtre, de cette façon de tisser des figures, des thématiques qui sont mises en place par Corneille lui-même, c'est-à-dire que ça, je ne triture pas la pièce, enfin j'ai pas l'impression de la triturer, j'essaie de la lire simplement. Et de la lire avec ce que je suis aujourd'hui, donc avec l'histoire des formes aussi. Et c'est simplement de la repasser au tamis de cette connaissance ou de ce savoir-là. Donc, j'ai pas l'impression de trouver des formes nouvelles, j'ai simplement l'impression de mettre au service de cette pièce des moyens qui sont des moyens d'aujourd'hui. Et ce qu'on peut faire et savoir et connaître et inventer. Formellement aujourd'hui. Donc c'est pas. Voilà, le travail de la forme. Pour un metteur en scène, c'est quoi le travail de la forme? Donner à la représentation, c'est d'essayer de rendre sensible, préhensible et possible une lecture pour des. Une lecture la plus riche possible pour des spectateurs. Enfin, c'est ça mon nom. Donc c'est d'essayer de sortir des attendus, de ce qu'on croit savoir, de ce qu'on croit connaître de cette écriture, et d'essayer de rendre sensible ce qui palpite dans une œuvre. C'est ça. Donc c'est ça le travail sur la forme. Hein.
Mais quand on dit ne pas triturer le texte, est-ce que ça veut dire que c'est le texte sous le texte alexandrin par alexandrin dans une très grande écoute et une très grande attention au texte, où est-ce qu'il y a, par exemple, des commentaires, des incises?
Non, d'accord. Non, après, il y a des niveaux de lecture qui sont différents. Faire entendre un texte, c'est aussi faire entendre sa construction. C'est-à-dire que quand je disais que Corneille, c'est moins un poète dramatique qu'un auteur de théâtre. C'est quelqu'un qui écrit pour les acteurs, c'est-à-dire qu'apparemment, on peut dire qu'il y a des alexandrins, pardon s'il y a des puristes dans la salle, mais il y a des alexandrins qui sont vraiment écrits au chausse-pied. On sent bien que ça n'est pas son souci, l'alexandrin. Il écrit en alexandrin parce qu'à l'époque, on écrit en alexandrin, et c'est tout. Et il le fait avec une maestria formidable. Mais voilà, il y en a qui sont vraiment, comparé à Racine, dont on sent bien le travail de relecture et de polissage de la langue, chez Corneille, il n'y a pas ça. Il y a une chose qui est plus importante parce que par moment, les tensions dramatiques, les situations qu'il propose sont plus importantes et les privilégie, où la peinture psychologique même des personnages est plus importante que la forme que pour la langue. Donc, voilà. Dans l'illusion, cette pièce, elle se présente comme un formidable hommage au théâtre. Je le disais tout à l'heure en préambule, hein, 1635, donc une année importante, très importante, puisque la fondation de l'Académie française, c'est ce qui va donner lieu au premier dictionnaire de la langue française, c'est quand même pas rien. Donc c'est une période comme ça, il y a 20-30 années qui ont été essentielles pour l'art et la culture en France, mais éprouve le besoin de rendre hommage à cet art pour lequel il est écrit. Et pour moi, c'était important dans un moment où j'avais le sentiment, et j'ai toujours ce sentiment, qu'il y a une attaque très forte sur tout ce qui pourrait être le travail de. Oui, sur le théâtre, sur les. On entend beaucoup de bêtises, des choses qui sont pour moi assez insupportables sur toutes les personnes qui font le théâtre aujourd'hui. J'avais l'impression qu'il fallait. C'était le moment de dire aussi que c'était formidable. Non seulement c'était formidable de faire du théâtre, mais que c'était que les gens qui faisaient étaient des gens en théâtre. Comment le dire mieux qu'avec cette pièce qui est considérée comme un grand chef-d'œuvre du répertoire français. Donc, j'ai voulu, pendant la représentation, donner aussi, par moment, la place première, le premier plan aux acteurs. Quand j'ai imaginé, c'est l'année dernière, ça s'est précisé, hein, justement pendant l'animation du festival ici, je suis venu voir Vincent Hertan, j'ai envie de monter cette pièce pour ça. J'ai eu d'ailleurs une discussion avec Thomas Sostermayer qui était intéressante par rapport à ça. Lui me disait, mais pourquoi ne pas monter Brecht? Je disais, peut-être qu'on n'a pas besoin de monter Brecht, parce que Corneille, d'une certaine manière, met en place des principes de distanciation qui sont très brechtiens, en fin de compte. Et sans le détourner, on peut vraiment le dire. Et j'avais envie de monter cette pièce, mais plutôt que de partir de la pièce, j'ai essayé de réunir une équipe d'acteurs avec lesquels j'ai une connivence et des connivences très fortes depuis des années. Et de voir comment ce groupe-là, ce groupe humain-là, pourrait s'emparer de la pièce. Ce qui nous a donné, ce qui nous a fait passer par pas mal de, je dirais, de tours et détours, et qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux versions de la pièce. C'est-à-dire qu'on n'a pas, non seulement on n'a pas pu, mais on n'a pas voulu se résoudre à faire, à un moment donné, un choix en disant Christophe qui va jouer Jérôme, Christophe qui va jouer Matamor, ou Benoît. Je parle de ça parce qu'il y a des acteurs qui sont là au troisième moment là. Je parle d'eux, pardon. Et donc on a imaginé dans la même mise en scène, enfin si on peut appeler, oui, dans la même mise en scène, on a imaginé deux versions du spectacle avec des rôles tournants. Ce qui fait qu'on a deux versions, on a appelé la version verte et la version rouge, parce qu'on ne voulait pas mettre ni de lettres ni de chiffres qui auraient pu laisser croire qu'il y avait une version A et une version B, une version première, une version deuxième, donc vert et rouge. L'acteur qui joue Clin d'or un soir joue Dorante et Adraste le soir suivant. L'actrice qui joue Lise un soir joue Isabelle le lendemain. Et cette manière de faire sur un... Enfin pour moi, elle est très importante parce qu'elle montre à quel point, évidemment, que mise en scène, le travail de mise en scène, c'est aussi un travail sur le sens et sur la signification. Mais que le travail de la dramaturgie, c'est aussi l'acteur qui le porte. Et c'est aussi l'acteur qui le travail sur la signification, sur le sens, c'est aussi l'acteur qui le... Et que le choix de tel ou tel acteur, le choix donc de choisir tel interprète ou tel autre, c'est-à-dire c'est pas seulement un physique et une voix, c'est aussi une intelligence, c'est aussi un imaginaire, c'est aussi un talent. Le fait de choisir tel talent ou tel talent, ça oriente le sens, donne un sens différent à la pièce, et voilà.
Et ça donne des versions très différentes entre la version rouge et la version verte.
Je crois. Même si c'est exactement le même espace, ce sont les mêmes costumes, ce sont les mêmes lumières, c'est à peu près la même durée, hein, 2h35, et non pas 2h40, ni 2h30, 2h35. Oui, c'est je crois très différent.
Il faut venir deux fois.
Oui, alors si ça ne sera pas possible, je suis désolé, parce que c'est déjà... Tant mieux, c'est bien, mais c'est plein. Donc, c'est toujours un peu effrayant, d'ailleurs, parce que... se dire qu'il y a des quiproquos formidables, c'est des gens qui viennent voir l'illusion comique dans une certaine... bon, on verra. Mais c'est toujours bien quand il reste un peu de place. Ça permet que le bouche à oreille puisse fonctionner, que le spectacle puisse trouver aussi son public à un moment donné. Mais bon, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de gens qui sortiront. Mais oui, dans le théâtre, il va y avoir deux versions. Voilà. Dans le théâtre, il va y avoir deux versions.
Alors on va parler maintenant du cycle de lecture, de mise en espace que vous proposez au Trésor Classique, mais d'abord j'aimerais savoir s'il y a des questions des journalistes dans la salle à propos de l'illusion publique, de ces nouvelles formes de représentation pour une sphère de l'espace.
J'ai vraiment pas l'impression de travailler sur des nouvelles formes. Je ne fais que réutiliser des formes qui existent. On n'invente rien, on crée des agencements. Je préfère parler d'agencement que de nouvelles formes. Je n'ai pas l'impression de travailler sur des nouvelles formes, mais simplement d'agencer des vocabulaires qui finissent par créer faire une orientation pour aujourd'hui, c'est tout.
Y a-t-il des questions? Non, vous pouvez trouver une voie plus tard, s'il vous plaît. Donc, en parallèle, je ne sais pas si on dit en parallèle, c'est la présentation d'illusion publique. Vous proposez une série de lectures, de mise en espace de classiques archéologiques pour le groupe. Ce que vous disiez, ce sont des textes très, très, très connus. pas publiés, ou très difficilement trouvables.
Sans qualité.
Sans qualité. Comment s'articule donc ce projet de donner en lecture des textes alors vous avez donné la liste que vous avez là sous le coude, sous le pied plutôt, parce qu'on aurait oublié, mais il y a Scuderi, Bougno, Charles Bates, Cyrano de Bergerac, Hino et Rotrou. Comment s'articule ce projet de donner en lecture ces textes-là par rapport à l'émission?
Je peux essayer par aussi.
Ben, je pense que ce sont des textes qui font la même chose, c'est-à-dire qui découvrent la représentation classique, qui découvrent le principe de la représentation, c'est je veux dire, des formes comme l'évolution, il y a du théâtre en théâtre, il y a des personnages de fou aussi qui viennent révéler en la vanité, des personnages raisonnables comme ça. Et, donc ce sont des pièces qui travaillent au même endroit que l'auteur. Et c'est dans cette espèce de découverte comme ça, le principe de la représentation, on cherche beaucoup à inventer des formes, un peu comme la fête sur les films, mais de manière beaucoup plus rapide, évidemment, des premiers jets, des propositions, des expériences.
Mais alors justement, à quel état de travail se trouvent ces propositions faites au public ?
On a rien pour les... Ça sera des propositions extrêmement rapides. Il se trouve qu'on a passé quelques semaines, l'été dernier, ensemble avec l'équipe, pour préparer la réponse, et que chaque jour, on proposait une petite forme sur un acte, une pièce, sur telle scène. On essaie de se raconter une pièce et d'adapter tous les moyens possibles très rapidement pour la rendre présente en France. Et pour qu'elle fasse sens pour nous, pour essayer d'être traversée par elle et qu'elle puisse nous aider à la rencontre des choses.
Si aucun travail n'a été fait ou presque rien, parce que je ne crois pas tout à fait Aurélie Didier, comment vous vous êtes inscrit dans ce projet-là de
Eric Sitoy? Allez, moi je me. Non, aucun travail n'a été fait, je vous assure. On a vu la pièce, enfin les pièces, c'est le minimum, mais. Non, après, il s'agit. Pour être un petit peu précis, on présente quelque chose et après on en pose. Je pense que c'est important d'arriver à articuler aussi une parole autour de ces objets qui sont forts des endroits, forcément des objets totalement éphémères qui vont aussitôt présentés, aussitôt morts. C'est simplement que quand Vincent et Hortense, quand on a discuté de cette présence ici pour la première édition sous leur direction, c'était important pour moi d'être là au début en sachant que ben voilà, dans 3 ans je serai. À la place de Thomas Ostermayer cette année, c'était important d'être là, de faire un signe et de dire voilà, cette histoire qui commence aujourd'hui, et cette présence en 2007, beaucoup rigolent d'ailleurs en disant ben là c'est très loin, comment on peut savoir si. Bon, évidemment, je serais peut-être mort, mais c'est que c'est un cheminement ensemble, et que c'est une façon de dire voilà, on est là au début, je serai là à la fin, je ne vais pas revenir tous les ans, bien sûr. Mais voilà. Et j'avais envie d'être présent avec d'abord avec les gens avec qui je travaille et de la manière dont je travaille. Et il se trouve que je dirige une petite structure qui s'appelle le studio, enfin une petite, non, formidable grande structure merveilleuse, le studio théâtre de Tri-sur-Seine, qui est un lieu magnifique de recherche et de laboratoire, qui me compagnie en compte avec un toit qui est formidable, comme il y en a plein. Et plein d'autres comme ça, et qui est la plus vieille compagnie de France, je ne dis pas ça, parce que c'est pas rien. Et on fait beaucoup de ces travaux d'ouverture avec les spectateurs. C'est évidemment, de temps en temps, on présente des spectacles, mais on essaye aussi de travailler avec des acteurs, qu'on a appelé des acteurs qui sont en fait des spectateurs associés. On vit régulièrement à des étapes de recherche, à des étapes voilà, de travail. Je pense que ce bol-là, parce qu'il faut. Il se trouve que la recherche, par moment, elle doit se passer dans des laboratoires, elle doit se se passer porte et volet fermé. Il y a aussi des moments où on a besoin d'ouvrir. Et que je trouve que le théâtre n'existe pas sans les spectateurs. Et que si on ne travaille pas ensemble et si on ne recherche pas ensemble, à mon sens, ce travail sur les formes, il est un peu illusoire, c'est-à-dire qu'on, je sais pas, on va pas assez loin. Donc moi j'avais envie, quand j'ai pris la direction du studio théâtre, d'essayer de créer comme ça des connivences très fortes et de pouvoir convier les spectateurs assez vite autour d'objets de recherche, comme ça, de moments de recherche, et d'en parler. Ce qu'on ne fait jamais, généralement, ou assez peu, ou trop peu pendant les moments de représentation. Il s'agissait d'être présent tel qu'on travaille et tel qu'on est. Donc c'est pour ça qu'on a associé ces classiques. Et puis aussi cette manière de travailler qui est dans une relation. On pense souvent que le metteur en scène est un monsieur tout seul qui vit retiré en haut d'une ronde d'un donjon. C'est absolument pas moi. Et je travaille avec d'autres metteurs en scène, nous partageons des idées, nous ne sommes pas d'accord, nous échangeons, évidemment avec les acteurs qui eux-mêmes, par moment, prennent en charge des projets. C'est-à-dire que c'est plus complexe que ça, c'est un petit peu moins simple que ça. La façon dont ça se fait le théâtre, la façon dont ça se vit et ça se partage.
Et l'idée de la troupe est essentielle pour vous dans l'idée de faire du théâtre?
Je ne sais pas la troupe, parce que la troupe, ça me fait peur. La famille, c'est compliqué. Je trouve que c'est bien quand on a un peu d'écart, un peu de distance, un peu d'espace, comme ça, pour pouvoir, pour les acteurs, en tout cas, faire des, non pas des infidélités, mais simplement d'aller se nourrir ailleurs, chez d'autres et avec d'autres. Mais essayer d'avoir des liens suffisamment resserrés, oui, pour construire quelque chose ensemble, ça me semble essentiel. Donc, je préfère parler, c'est pour ça que je préfère parler de connivence plutôt que compagnie, ou de fidélité, de désir, plutôt que d'entretien des désirs en commun, plutôt que de tromper. Là aussi, ça paraît des jeux sur les langues, sur la langue, sur le langage, mais c'est par ça qu'on vit. Hein. Je travaille tous les jours, quotidiennement, sur la signification des mots, sur la parole et sur la langue.
Merci, Frédéric.
Excusez-moi, parce que j'avais dit que je l'insérerais dedans, et en fait, je n'ai pas inséré dedans parce que voilà. Mais je tenais à rappeler une petite chose que tout le monde, vous êtes là, c'est de dire que, parce qu'il y a pas mal de choses qui courent sur ce qui s'est passé, voyons, sur l'annulation l'année dernière du festival, et sur là où on serait les choses aujourd'hui. Juste pour dire où en sont les choses aujourd'hui. Effectivement, il y a un énorme pansement qui a été mis en place sous forme d'une pièce exceptionnelle. Je parle évidemment du problème de l'intermittence, mais qui est pour moi un problème qui rejoint d'autres plus généraux. En tout cas, pour parler spécifiquement de ce problème-là, il y a donc un pansement formidable qui a été mis en place, et qui ne résout rien, dans le temps. Il doit y avoir des renégociations, hein, parce qu'un expert a été nommé qui va rendre ses conclusions au 31 octobre, et il doit y avoir des renégociations en vue de... peut-être un nouveau protocole, je pense que c'est essentiel. Beaucoup de gens ont fait des propositions qui ne font pas partie des syndicats représentatifs, c'est-à-dire ceux qui siègent à l'UNEDIC, et que ces renégociations, on demande et on continue à demander à ce qu'elles se fassent avec les professionnels et avec les intéressés. Je crois que personne, donc tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut réformer, mais si on réforme sans demander l'avis des gens, qui sont les premiers concernés, c'est une aberration. Il y a des propositions, et je parle de ça, tous les partis politiques confondus. C'est-à-dire qu'il y a un comité de suivi qui est à l'Assemblée nationale, qui a fait un travail formidable en relation avec les coordinations intermittentes et en relation avec d'autres syndicats professionnels, comme le syndicat. Il est temps qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle vraiment de ces problèmes. Parce que aujourd'hui, on pourrait croire que c'est arrangé. Rien n'est arrangé. Rien n'est arrangé. Et on est joyeux de faire du théâtre, on est heureux d'en faire, on veut vraiment pouvoir continuer à en faire. Et en pouvoir continuer à en faire dignement et arrêter d'en prendre des sottises qui sont colportées sur notre monde, ça devient un peu agaçant. Donc je vous simplement trois exemples de propositions qui sont très simples. 507 heures sur 12 mois, ouverture de droit pour 12 mois. Donc, suppression de la dette universelle. L'autre chose qui paraît absolument essentielle et qui est facteur, je vous assure,
retour de la dette universelle.
Retour de la dette universelle. Il y a une autre chose qui est absolument essentielle qui est facteur d'économie, c'est le plafonnement des revenus. C'est-à-dire que on calcule un minimum ou un maximum, un minimum à mon sens et un maximum, et que si on a beaucoup travaillé dans un mois, et si on a atteint ce plafond, eh bien on ne touche pas ces indemnités chômage. C'est-à-dire qu'on fait une addition entre le revenu et les indemnités. Cette chose-là est absolument, je vous assure que ça fera réellement des économies. Et aujourd'hui, beaucoup les professionnels sont prêts à ça parce que c'est un principe de solidarité, c'est un principe de mutualisation et qu'on a vraiment acquis dans la bataille et qu'on a monté à l'émission. Et une chose un tout petit peu technique, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais ce n'est pas grave, il y a plein d'informations qui courent, vous pouvez lire ça en détail. La suppression du SJR, le SJR, c'est le salaire journalier de référence, qui rentre dans tous les calculs des indemnités et qui est un facteur d'opacité et non pas de transparence. Voilà, c'était la petite chose que je voulais rajouter, je peux le mettre à l'intérieur, simplement pour ne pas tenir sur une note. C'est pas triste d'ailleurs, c'est simplement ce qui se passe. Mais.
Merci. Y a-t-il des questions quand même sur l'illusion comique ou le cycle classique en interrogation? Non. Bien, merci beaucoup Frédéric Christophe, l'illusion comique, donc la salle à son point 10 au 22, et le cycle de lecture demain avec Aurélie Lacroix, à partir du 14 et jusqu'au 21 à 12h30. Merci beaucoup.
Au revoir.
Donc nous allons parler maintenant de Groundlings, une variation de l'espoir qu'on donne à la titre en français, qui est présentée au théâtre municipal les 10 et 11 juillet. Une mise en scène de Christophe Martalère, qui n'est pas pu être là ce matin. Et donc Stéphanie Karp qui est là, bonjour. Vous assurez la co-direction du Schauspielhaus House de Zurich avec Christophe Martalère. Et vous assurez depuis maintenant, je crois, une quinzaine d'années, le rôle de dramaturge à ses côtés. C'est un mot, un rôle qui n'est pas forcément très courant en France. Donc comment vous pourriez définir ce rôle de dramaturge aux côtés de Christophe Martalère?
Dramaturg ist, kann es etwas sehr Verschiedenes sein. In diesem Fall habe ich so die generelle Konzeption des Abends, also ich habe Christoph die Idee gesagt, so einen Abend zu machen, und ich habe die Texte geschrieben. Habe ich sie aus Dokumenten, aus Dokumentarfilmen und aus der Zeitung das Material dafür gefunden und teilweise auch über die Interpretationen der Schauspieler.
Alors, en termes de dramaturge, je pense que très varié selon les contextes. En l'occurrence, il s'agit tout d'abord de la conception générale, bien sûr, en vue d'une soirée à venir, d'expliquer que j'ai donné un autre terme à Christophe. Et puis, il y avait également l'écriture des textes, des textes où on y trouve une inspiration dans des films documentaires, dans la presse quotidienne aussi, et une certaine partie est assurée également par l'improvisation des acteurs.
Donc, est-ce que vous vivez comme un auteur? Puisque vous écrivez les textes, et en l'occurrence le texte ici de Brownie.
Ce n'est pas une différence.
Cet aspect-là, en fait, n'a pas beaucoup d'importance pour moi.
Comment c'est. La mise en scène de Groundlings est signée Christophe Martalère, et vous êtes en effet trois à signer le projet de Groundlings. Vous-même, Christophe Martalère et Anna Vibrock, passé de l'écriture de ce texte.
Ce n'est pas tellement des textes, c'est plutôt des images.
Il y a des mots quand même.
Cette pièce n'existe pas que de mots. Hein. Il existe beaucoup plus que des chorégraphies, des angles, des images. Tout le deuxième bar est, je crois, vraiment fantastique, chorégraphie.
Concernant le fait que la société occidentale est en train de se terminer elle-même en
was man vielleicht gar nicht so präzise sagen kann, für das, was wir ausdrücken wollen.
En fait, il y a une idée de base qui est constituée sous forme d'une sorte de chorégraphie, d'image, une scène qui est créée d'ailleurs par un public, comme on voit. Et alors, cette scène, cette impression initiale est utilisée pour créer de nouvelles idées, des images, mais des images qui finalement sont l'expression exacte de ce que l'on veut exprimer et beaucoup plus précis en fait ce que l'on pourrait dire.
Est-ce que cette première image, cette première idée, c'est ce qu'on a lu, à savoir une pièce qui raconte en partie la faillite de la compagnie aérienne suissaire? Est-ce que ça a été le point de départ de Browning?
Das hat eine Rolle gespielt, aber es ist damals die ganze Wirtschaft ja gegroundet, nicht nur die Swissair, sondern das ganze Finanzkapital, diese ganze Angeberei, kann man sagen, oder dieses fiktive Finanzkapital, hat sich sozusagen Luft aufgelöst. Das haben sich ja nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen Ländern Versicherungsanstalten, Banken pleite gegangen. Es hat eine ungeheure Anzahl von Arbeitslosen angestellt gewesen. Es ist diese ganze Überbezahlung des Managements aufgeflogen. Und das alles zusammen, plus die Erlebnisse, die wir in unserem eigenen Haus hatten, waren eigentlich der emotionale Auslöser, hat es dazu geführt, dieses Stück zu machen oder dieses Projekt zu machen. Es ist ja in gewisser Weise, es ist ja kein Stück, sondern ein Projekt, das heißt eine Recherche.
Donc, pas vraiment, bon, en quelque sorte, ça a joué un rôle, malgré tout, évidemment, mais le grounding ne concernait pas seulement la Suisse, ça concernait l'économie au capital fictif, l'économie des groupes, comme on dit chez nous, les banques, les assurances, énormément de sortes d'emplois à la suite d'un grand nombre de faillites, une sous-rémunération des managers, et puis un des événements supplémentaires étant des événements au sein même de notre maison, qui est en fait. Là, le déclenchement émotionnel pour ce projet, parce qu'en fait, il s'agit d'un projet de plus que d'une pièce.
Les événements dont vous parlez, c'est la mise à pied, la démission exigée de Christophe Bartaler de son théâtre. Est-ce que pour vous, ce départ exigé était un symptôme, justement, de la société capitaliste?
Sure. Nicht einfach der kapitalistischen Gesellschaft, sondern des Punktes, an dem man heute ist. Man ist zurzeit alles versucht zu ökonomisieren, auch die Kunst zu ökonomisieren, was natürlich gar nicht geht. Und da war, glaube ich, dass die Schweiz oder war es in der Schweiz oder in Zürich in Bezug auf unser Haus, war dafür sehr symptomatisch. Also man versucht aus diesem Haus einen teilweise ein kommerzielles Unternehmen zu machen und hat es auch zu sehr vergrößert, also einerseits das Haus vergrößert, andererseits Personal eingespart, versucht alles über Effizienz zu lösen. Und das geht nicht mit der Antwort. Und der ganze Streit darum hat im Grunde dazu geführt, dass man Christoph Anhalt nicht erst einmal entlassen hat, dann hat die Stadt protestiert und dann hat man uns auf geschicktere Weise hinausgeschickt.
Évidemment, ce n'est pas une telle simplification que de dire que c'est toute la société capitaliste qui a échoué. C'est plutôt le point où nous en sommes à l'heure actuelle. C'est un petit peu cette image de la situation présente. Et on veut tout mettre dans un cadre économique. Même l'art doit être économisé, entre parenthèses, entre guillemets. Mais évidemment, ce n'est pas possible. Et en Suisse, en général, en Suisse en particulier, et notamment pour ce qui est de notre maison, on a voulu créer une situation qui est en fait symptomatique de cette tendance générale, à savoir que l'on a voulu créer ou transformer notre maison en une entreprise commerciale. On a vendu, mais à grande de trop, ce n'était plus tellement gérable, on voulait devenir plus efficace dans tous les domaines, ce qui n'est pas faisable non plus. Et en fait, ça n'a pas marché pour notre maison. À le constat de cela, Christophe, Anna et moi-même avons été d'abord licenciés. Alors il y a eu des protestations, on est revenu là-dessus, et alors par des intrigues, on n'y est quand même pas revenu.
Mais est-ce que cette pièce a contribué justement au fait que l'État du lit, que les autorités voulaient intégrer cette affaire?
C'était le protest de la pièce qui est venue après.
Donc on ne peut pas considérer cette pièce comme un règlement de compte.
Oui, parce qu'au bout du compte, par notre billet, on a quand même été mis à la porte. Oui, donc le règlement de compte, non pas vraiment, puisqu'ils sont arrivés à leur fin au bout du compte. Mais dans un contexte d'une manière légèrement plus sympathique, on va dire.
Alors, on a bien compris qu'il y avait un projet politique et une parole politique dans cette proposition de Christophe Martellet et de vous-même. En même temps, j'ai la sensation que le comique domine l'ensemble de la proposition et l'ensemble de la pièce. Comment s'articule le propos politique et la dimension comique, puisqu'on a parlé à propos de ce spectacle de farce sociale?
Ce n'est pas contradictoire. Et la politique est tout le temps aussi très comique. Hein. Et les hommes qui sont des chefs de l'économie sont normalement très ridicules.
Est-ce que c'est un des ressorts? Est-ce que c'est un des ressorts de votre théâtre, celui de Christophe Martellet? Parce que j'ai vu quelque part qu'il disait que justement faire rire les gens était une des bases du théâtre.
C'est nicht etwas, was man sich vornimmt, das passiert einfach. Aber natürlich, ich meine, ich glaube, dass alle Stücke, alle Projekte von Christoph immer etwas mit einer großen Trauer und einer großen bizarren Komik zu tun haben. Das hat auch mit seinen Schauspielern zu tun, das ist seine Sicht auf die Welt. Das wird immer so sein.
C'est pas vraiment ça le projet de départ, évidemment. Ça a évolué, ça n'est pas arrivé là, mais Christophe a toujours dans ses pièces quelques éléments qui reviennent comme de la tristesse, comme un comique un peu bizarre. Cela se reflète aussi dans le choix de ses acteurs et de faire de les mettre en valeur. C'est un petit peu sa vision du monde en fait.
Man kann ja nicht allen Ernstes über sowieso schon lächerliche Vorgänge der Wirtschaft jetzt ernst hat oder ein ernsthaftes oder trauriges Stück machen, das wäre absurd.
Et on ne peut pas se lancer dans une entreprise tout à fait sérieuse pour parler de choses totalement ridicules qui se produisent dans l'économie. Cette excuse est inimaginable.
Parce que je m'interrogeais sur le titre de la pièce Grounding, une variation de l'espoir.
Das muss man erklären, das stimmt. Es hieß also, die zweite, also der Vertrag, den man uns angeboten hat, nachdem die Stadt unseren Rausschmiss zurückgenommen hat. Das war ein Vertrag, der einen langsamen Rausschmiss auf Raten formuliert hat. Und dieser langsame Rausschmiss auf diese freundlichere Art, den ist Hoffnungsvariante. Also so hat der Verwaltungsrat das genannt. Und deshalb haben wir das im Untertitel Groundings, eine Hoffnungsvariante. Wir sind auf Groundings gekommen, weil wir schon nach 2 Wochen unseres Daseins in Zürich wurde uns immer angedroht, das Schauspiel aus Grounded, wenn ihr so weitermacht.
Voilà, il faut effectivement expliquer un petit peu le choix du titre et du sous-titre aussi. En fait, après le premier licenciement, je veux dire, on nous a proposé un contrat lors du retrait de cette première décision. Et en fait, ce contrat revenait à un licenciement long par petite phase. Et en fait, on a appelé ça de la part de l'administration de la municipalité, Hoffnungsvariante, qui est la variante de l'espoir. Et alors évidemment, c'était tellement ridicule qu'il fallait bien l'intégrer également sous forme de sous-titre. Et le titre principal de Grounding, c'est qu'après 2 semaines déjà, les activités et les événements pour bien décrire, l'administration disait, vous êtes en train de grounder, donc de mettre à pied ou de mettre à bout terme l'activité de la maison. Donc il faut agir, il faut trouver ses chemins, trouver autre chose. Sinon ce sera effectivement un grounding, d'où le titre de notre projet.
Alors je vais voir s'il y a des questions dans la salle. Personne. Mais j'aimerais quand même que l'on parle, avant de se séparer, de la place du chant et de la musique dans votre théâtre, dans celui de Christophe Martaler, dont la formation est, il est musicien à l'origine. Quelle place a le chant et la musique dans cette proposition?
Und Projekten sehr unterschiedlich, welche Rolle die Musik spielt. Das erste ist, dass der gesamte Rhythmus aller Stücke oder aller Inszenierungen von Christoph sehr musikalisch ist. Das hat damit zu tun, dass er von der Musik herkommt. Also egal, ob in ihm gesungen oder Musik gespielt wird oder nicht, aber es ist auch die Weise, wie er choreografiert, wie er mit Sprache umgeht, hat einen starken inneren, es komponiert eigentlich, seine Komposition.
Et tout d'abord, pour ce qui est du rôle de la musique dans les pièces de Christophe, il faut dire que très évidemment, ça varie d'une pièce à l'autre et selon le projet également. Mais il faut dire que tout d'abord, la mise en scène de manière générale, de la part de Christophe, est toujours caractérisée comme étant musicale, parce que justement, c'est son origine. Mais cela se retrouve à tous les niveaux, dans sa chorégraphie, dans la musique concrètement utilisée, mais également dans les paroles telles qu'il les choisit.
Da gibt es natürlich Projekte, in denen relativ viel gesungen wird. Zum Beispiel in Groundings werden einige Schweizer Lieder gesungen, weil wir beginnen ja tatsächlich mit dem Fall der Swiss Air. Das war in dem Jahr, in dem wir Groundings gemacht haben, war das gerade passiert. Und auf diese Weise beginnt der Abend ein wenig folkloristisch und auch ein wenig kabarettistisch und wird dann aber immer allgemeiner auf die gesamte westliche Wirtschaft hin oder überhaupt die ganzen Höhen und Tiefen des Chefdaseins hin erweitert. Und da werden dann, wie gesagt, einige Schweizer Lieder aus der Schweizer Folklore und Tradition gesungen, aber auch ein paar deutsche Volkslieder.
Puis il y a des projets qui sont nettement plus marqués encore par la musique, comme notamment Groundings, où il y a tout début des chants suisses, parce que là justement c'était l'année de la faillite de la Suissaire, donc il y avait un contexte très concret. Mais donc il y a des éléments de folklore, même de cabaret, par la suite, devant cette pièce. Et puis, on se tourne vers, de manière plus générale, vers le monde occidental, et les problèmes tels que j'ai déjà annoncé, les hauts et les bas de la vie de manager, etc. Mais effectivement, il y a donc des chants suisses, et puis aussi quelques chants populaires allemands dans le fil de la pièce.
Il y a une très grande ironie, donc.
Dass die Swiss Air für die Schweizer etwas emotional ganz Wichtiges war. Das ist nicht so wie für uns Deutsche zum Beispiel die Lufthansa oder so, wenn die Lufthansa pleite machen würde, würde mich das persönlich nicht besonders interessieren. Aber für die Schweizer war das ein unglaubliches nationales Debakel, das sie alle auch sehr persönlich genommen haben. Und deshalb werden diese Schweizer Volkslieder gesungen. Also das war für sie ein Zusammenbruch ihrer Identität für alle Male.
Cogiter est un élément très important quand même dans le contexte suisse justement parce que la reine de la Suissère était pour les Suisses quelque chose de très important, de très marquant au niveau émotionnel. Pour moi personnellement, la faillite de la Lufthansa en tant qu'allemande dépasse derrière le critère ou le caractéristique d'un fait divers. Mais en Suisse, cela a été ressenti très durement, c'était une débâcle pour la nation, prise très au sérieux personnellement par beaucoup de Suisses.
Donc cela a imposé quel type de musique, cette émotion nationale? Quel type de musique cette émotion nationale a imposé à Grandi?
Comme j'ai dit, les folklore suisse.
Donc avec beaucoup d'ironie?
Oui, avec ironie, mais avec ironie aussi. Avec ironie, mais aussi avec une ironie grave. Sehr ernst, sie singen auch sehr traurige Lieder zusammen.
Oui, ces hommes sont très graves, sont très sérieux, ils chantent ensemble, mais ce sont toujours des chansons très tristes. En
fait. Sie weinen dann zusammen über den Zusammenbruch des Bisher. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Das kann man lächerlich finden oder selber auch traurig finden.
Alors, ils pleurent ensemble la débâcle de la Suissère, et là, c'est un petit peu la perception personnelle qui m'a joué. Soit on le prend comme quelque chose d'ironisant et ridicule, soit quelque chose de. Oui, de vraiment grave, de vraiment triste.
S'il fallait des étiquettes, des fois un peu français, vous diriez que c'est plus du côté de l'opéra, de la comédie musicale, ou c'est juste une mise en scène de Christophe Martelet? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non, merci beaucoup donc, Stéphane Dutra. Grounding, c'est une variante de l'espoir, c'est donc au théâtre municipal, les 10 secondes. Et je vais demander maintenant à Joanne Simmons de venir nous rejoindre pour parler de l'un de ces deux propositions de voix. Donc après cette petite pause, nous allons continuer cette conférence de presse publique avec un autre spectacle. Un des deux spectacles de la compagnie ZT Hollandia, avec Joanne Simmons, qui en est le directeur, et Jeroen Willems, qui est le comédien unique de ce spectacle deux fois, qui va donc être présenté à la chapelle des Nuits en Blanc, du 10 au 17, à 15h, avec deux représentations supplémentaires. Je vais noter quelque part, je ne sais plus, à 19h30, c'est le 15 au 16, je crois. Le 15 et le 16, donc, il y aura deux représentations supplémentaires et elles ne sont pas inscrites dans le programme du festival, donc c'est important à noter. Donc bonjour à vous, on va parler un petit peu de la production et du travail de ZT Hollandia, mais il y a une première question qui m'est venue immédiatement en regardant les présentations du spectacle. Il s'appelle « Deux voix ». Il est question de cinq personnages et il y a un seul comédien. Alors, est-ce que vous pouvez résoudre cette contradiction?
J'essaie en français, je ne suis pas sûr si ça. Mais je dois parler en français.
Vous avez appris le français il y a combien de temps?
Comment?
Vous avez appris le français il y a combien de temps?
Quand j'étais petit, j'étais ici en vacances, hein, parce qu'il y avait une tante et une oncle qui habitaient ici, près d'ici. Mais deux voix, ça vient originalement de quand on était, c'était deux monologues ensemble. Alors c'était mon solo et après il y avait Betty Schürmann qui faisait sa monologue, c'est le dernier œuvre de Marguerite Duras. Qu'est-ce qu'on dit, Duras ou Duras?
Duras.
De Marguerite Duras et...
Duras, je ne me souviens pas.
C'était sa dernière journal, c'est un peu écrit comme journal. Et là, elle était après mon monologue et ça avait quelque chose avec... Au début, on avait l'intention de faire des choses ensemble, alors de croiser, qu'elle venait dans mon cours de présentation et moi dans ce modèle. Mais finalement, c'est comme ça. Alors, on avait les deux. Et après la première série, on a décidé de continuer avec celle-ci. Et c'est comme ça que. Mais on a gardé le deux voix parce que pour moi, le deux voix, ça veut dire aussi qu'on parle avec. Qu'on peut être des différentes personnes comme je suis. Et ben, je veux dire, bien sûr, naturellement, que je suis cinq personnes maintenant, mais ça n'a rien à dire avec l'idée qu'on peut être l'un et l'autre. Et dépendant de d'où tu viens ou d'où tu arrives finalement. C'est clair ou non?
Oui. Voilà. Qu'est-ce qui est venu de ce texte d'Uras? Parce que je ne l'ai pas vu crédité, j'ai vu que deux voix étaient d'après un texte de Pier Paolo Pasolini et d'un homme, je ne prononcerai pas le nom parce que j'ai du mal avec les noms étrangers, et qui est en fait le président de la chaîne au Nigeria. Uras a complètement disparu du texte?
Oui, ça disparaît.
Alors, comment se sont faits les croisements, du coup, entre le texte de Pasolini et ses discours, j'imagine, ses prises de parole du président de la chaîne, dont vous avez cité le nom, parce que ça m'évitera d'être...
Ce dernier, le président de la chaîne, M. Herbert Schröder, oui, c'était publié en journal, en fait. Et c'était aussi, un speech, un discours, et c'était originalement c'était le base, un peu le base, parce que là il demande un peu la discussion avec l'art, avec les activistes, avec les gens qui sont la politique, et c'était pour nous un peu le base aussi d'être inspiré, de faire quelque chose sur ce sujet. Et finalement, on a décidé de le mettre avec les autres personnages à table. Alors, il est avec le politicien, avec le mafioso, alors qu'il y a aussi une multinationale à ce table, et essaie à expliquer quel est... que peut être sa voie de responsabilité dans le monde
troisième. Mais est-ce un cinquième personnage ou est-ce que c'est un personnage qui reprend la totalité des autres, c'est-à-dire à la fois le mafieux, le politicien?
C'est un cinquième personnage qui connaît les autres aussi. Alors, on se connaît tous. On parle un peu avec on se parle l'un à l'autre, pas vraiment, mais on a des contacts. Mais oui, c'est pas quelqu'un qui le reprend tout, c'est quelqu'un qui vient avec un nouveau, très actuel, sujet très actuel, parce que naturellement les sujets de Pasolini sont peut-être, peut-être qu'ils sont parfois plus actuel, plus actuel que lui, parce que ce texte-ci est écrit en mai 1995, et Pasolini, bien sûr, c'est beaucoup plus vieux, mais il garde peut-être par son capacité visionnaire l'actualité un peu plus.
J'aimerais poser une question à Joël Simons. Comment est venue l'idée de ce spectacle, l'idée de mêler ses voix, de mêler ses textes, et de finalement ne faire jouer qu'un seul comédien, Hiro Villanos?
Nou, dat komt eigenlijk omdat wij daarvoor, op het punt waren, hele andere stukken deden. En Jeroen samen met mij erover had, wat zou hier goed zijn om te spelen. En toen kwamen we terecht op machthebbers. En zo is het eigenlijk ontstaan. Misschien is dat eerste verhaal. Machthebbers.
Donc, c'est une pièce qui n'était pas en répertoire. Et à un certain moment, quand je jouais d'autres pièces, et à un certain moment, le groupe est arrivé à la question des que jouer, qui voulaient le groupe. Et qu'ils avaient quelque chose avec des gens qui étaient plus simples, des gens qui étaient plus grands.
En ik weet niet of Jeroen het al verteld heeft, en dan Pasolini wijst eigenlijk naar een toekomst waarin er een vermenging plaatsvindt van bedrijfsleven, zeg maar even, politiek en de onderwereld en dan de kerk.
Et Pasolini le renvoie à un avenir où il y a un mélange de la vie financière, la politique et le capitalisme.
Et in het bijzonder natuurlijk onze rol binnen de kapitalistische samenleving. Er zit bijvoorbeeld, is dat Kenia?
Dat is het over heen. Dat is Shell bijvoorbeeld over heen.
Nigeria, ja. Bijvoorbeeld in de speech van Herk Streuter, die president-directeur Michel, wordt gesteld, als wij als Shell weggaan uit Nigeria, dan, omdat protestgroepen dat willen, dan scheppen we daar enorme problemen in, want omdat er daardoor duizenden mensen werkloos worden. Dus wat is je houding als toehoren naar deze teksten van Herkstreuken? Wat is je houding? Moet je dan inderdaad zeggen, nee, ze moeten uit dat Nigeria gaan? Of moeten ze toch in Nigeria blijven, want anders raken duizenden mensen werkloos?
Nous vivons bien sûr dans une société capitaliste. Et là, ils sont focalisés sur le Nigeria. Et ils prennent par exemple le discours du président de Shell, qui est au Nigeria, et qui pose très bien le problème. Il faut qu'il soit quitté du Nigeria suite à des protestations, à des mouvements protestataires. Et bien sûr, ça créerait pas mal de problèmes. Ça ferait le chômage, ça créerait le chômage pour des milliers de personnes. Il faut qu'il faut au contraire rester au Nigeria. Donc on se pose la question de savoir que fait le politeur, le spectateur, que fait-il quand il entend un tel discours, quel est le parti du discours.
Et vous prenez parti
Ja, ik ben sowieso in Excel.
Ze hebben het niet gezien, ja.
Ze gaan weer al dit, denk
ik. Maar ik denk er wel. Dus. Wanneer je zonder benzine staat, met je auto, en eerst nu zijn het station, is de Shell, dan wil je het ontmoeten. Dus dat is onze positie een beetje in deze samenleving.
Ben, bien sûr, quand on est ici avec sa voiture, en même temps, on prend l'essence, en principe, il faut répondre.
C'est ça exactement qu'il fait, il nous confond avec notre. Voilà. Et ça, il est très intelligent, je vous dis. Mais il fait des aussi, je trouve. Mais pour voir ça, il faut très bien que je fais. Mais je trouve qu'il fait des aussi. Nous avons enlevé tout ce qui dirige directement au Shell. Il n'y a pas de Shell nigérien dans ce texte. On a vu tout ça parce que nous pensons que ça, c'est quelque chose de la façon de penser de la multinationale dont il faut parler, et pas spécialement sur une compagnie comme Shell.
Alors, maar in de tekst wordt wel heel duidelijk geweest, toch? Nee? Jawel. Hij zegt toch wel ergens grote multinational.
Donc,
Jérôme vient de dire que ce n'est pas tout à fait, qu'il y a la référence pointue à la chaire, mais alors j'ai vraiment une anecdote que si, que si, qui a quand même une chaire qui est présente. Alors là, il me semble pas d'accord.
Et le patron de chaire est pour vous le symbole, le paradigme du capitalisme en Europe?
Moi, je suis aussi le paradigme de capitalisme.
On est tous. On est tous.
Oui. C'est notre position.
La question est où on porte sa responsabilité. Je vois.
Alors, dans l'histoire de la compagnie ZT Hollandia, vous avez, il y a une vingtaine d'années, parcouru les campagnes, les usines, les villes, pour aller à la rencontre d'un public qui n'était pas forcément le public des salles fermées. Et le public habitué du théâtre. J'ai cru comprendre que vous aviez renoncé à ce nomadisme comme ça, et à cette idée de porter la parole théâtrale ailleurs que dans les lieux de théâtre. Est-ce qu'un texte politique comme celui-là, qui interroge nos comportements capitalistiques, est une façon quand même de s'adresser à un public qui n'est pas forcément celui du théâtre, en fait de déranger un public de théâtre bourgeois?
In 96 is er een onderzoek geweest van de Nederlandse regering, ja, ik weet het anders, maar zoiets. En die kwamen tot de slotsom dat Hollandia het meest elitaire, het best verdienende publiek van Nederland had. En veruit.
Oui, c'est un
petit peu
bizarre, parce que effectivement, la troupe de théâtre, Hollandia, ne voulait pas jouer dans des salles, avec un objectif, c'était de s'adresser à un public qui n'allait pas au théâtre. Et donc pour cela, il traversait les Pays-Bas. Et il s'est avéré que c'était vraiment, ça a été un échec complet. En 96, il y a une étude de la part de l'université, je crois, de l'université, et la conclusion était que Hollandia s'adressait principalement à un public élitaire, à gros sous, à gros salaire. Donc c'est au fond l'échec complet.
Mais ce spectacle, j'imagine, laisse assez intranquille, hein, je ne peux pas traduire ça, en tout cas, doit choquer ce public à gros sous, comme vous dites, qui est notre public habituel.
L'attention, je pense, c'est pas choquer l'audience. Dat is niet met je voeren dat je denkt, nou eens even lekker het publiek choqueren. Maar het is wel een stuk waar mensen eruit komen en het werkelijk over het stuk hebben. Omdat wat we daarin aansnijden is zo onze bubbelrol die we hebben in deze maatschappij, dat daar kom je niet aan onderuit. En dat is omdat het eerst begin, van de Nederlandse situatie geldt het in ieder geval zo, eerst begin met teksten van Pasolini. En die teksten van Pasolini, dan op dat moment kan je nog denken, god, dat speelt zich af in Italië. Ja, in Italië inderdaad is het zo dat je een vermenging hebt tussen de maffia en de staat en misschien de kerk of hoe dan ook. En dan langzamerhand kom je door die Shell-directeur in Nederland terecht en dan met terugwerkende kracht denk je dat dat zo ook in Nederland in elkaar zit.
Non,
ça va.
Donc nous ne voulons pas vraiment choquer, on s'amuse pas à ça. Nous voulons parler du rôle, de notre rôle aussi dans la société. Et nous partons bien sûr d'une situation qui est bien propre à la Hollande, mais en prenant les textes de parce que les publics vont tout d'abord croire que ça se situe en Italie, où il y a bien sûr un mélange, une interaction entre la mafia, entre l'État, l'Église. Mais alors petit à petit, nous avons le monde, en quelque sorte, que nous revenons aux Pays-Bas. Et à ce moment-là, les gens comprennent très bien qu'il s'agit également de la situation chèque, qu'il s'agit également de l'Église.
Je dis aussi quelque chose de la situation. Kan ik ook iets zeggen over de situatie waarin hij speelt? Dat is misschien belangrijk voor het publiek. Dat is probablement important pour la audience. Het speelt zich eigenlijk af 's nachts. Waarin een aantal mensen rond een tafel zitten, die een frissant rijke maaltijd hebben genoten, een copieuze maaltijd hebben genoten. En vanaf dat moment begint Jeroen die vijf personages te spelen. En de eerste personage is een intellectueel. Die een iets wat cynische kijk heeft op de wereld. Het tweede personage is een figuur als Aldo Moro, die enorm veel bezittingen heeft, maar niemand weet dat. Want hij rijdt rond in een heel eenvoudig bootje, kijk het zo vervolgen. En de derde figuur, dat is de handlanger van Aldo Moro. Dat is een jongen die niet opzij zal gaan als hij iets vreselijks moet doen. En de vierde is de travestiet. En die travestiet, dat is, die spreekt eigenlijk over iemand die de kerk, de macht in de kerk. En de vijfde is de Shell. En al die personages zitten rond die tafel. En die komen allemaal aan het woord en doet die allemaal in zijn eentje. En gaat het in Frans.
Donc, je voudrais vous expliquer la situation dans laquelle Jeroen jouera. Donc, ça se passe le midi. Il y a donc pas mal de gens autour de la table qui ont bien mangé un repas copieusement attendu sans doute. Et à tour de rôle, ils prennent la parole. Et alors là, c'est Jeroen qui prend systématiquement, qui prend les différents personnages. Le premier, c'est un intello, qui est un bien cynique. Oui, c'est toujours évidemment l'ambiguïté de propos. Que dit-on vraiment? Quels sont les sous-entendus? Il y a une certaine ambiguïté. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, le premier personnage est un intello, un bien cynique. Le deuxième personnage est un personnage un peu style abonnement. Qui au fond est immensément riche, énormément de position, mais qui joue un petit peu la simplicité, la petite voiture. Et le troisième, là c'est.
Le deuxième, c'est écrit, il y a vraiment écrit Pasolini sur Andreotti. Andreotti.
Oui. Et alors. Alors le troisième, là c'est un. C'est quelqu'un qui obéit aux ordres, et même si les ordres ne sont pas tout à fait orthodoxes, c'est assez terrible quand même de faire ça. Le quatrième, c'est un travesti, alors il y a un petit peu le problème avec le pouvoir de l'Église, il y a des problèmes sur le pouvoir. Et le cinquième, c'est effectivement le créateur de chez nous.
Est-ce que ce temps de la fondation, cette fin de repas, après que chacun ait beaucoup bu et pas mal mangé, pour moi, quelque chose comme un état d'ébriété. D'ébriété, pardon. D'ébriété dans la.
On peut dire la mise, je ne joue pas comme ça. Je ne joue pas que son souffle, mais ce que vous êtes en mer, c'est qu'on a vu assez on dit des choses que la région française on est mal, c'est-à-dire que je n'aurais pas dit ça hier soir. Mais quand même, non, je ne pas sûr, non, pas tout à fait.
Ah, il est significatif, on ne va pas continuer trop longtemps. J'aimerais juste que vous nous parliez de votre travail en commun, parce que j'ai la sensation que vous n'êtes pas tout à fait un acteur de cette théologie, mais que vous êtes vraiment le grand référent de ça. Ça fait à peu près 16 ans que vous travaillez ensemble et vous lui avez quasiment donné l'exclusivité de votre art, de votre personne. Pourquoi ce lien aussi fort qui est assez rare quand même au théâtre à ce point? Mais j'imagine que vous avez fait un
énorme travail. On m'a demandé avant, mais j'ai tout de suite non, parce que pour moi, c'est la première fois maintenant que j'ai le français, mais c'est le travail de 3 mois. Mais c'est vrai que j'ai dit dès le début que quand je vais à l'étranger, que c'est une heure et demie de texte, et sa seule possibilité est de le faire dans la langue de la public. Et moi je trouve que c'est nécessaire parce que si on fait des textes conçus, ah oui, ça va bien sûr, mais c'est évident qu'on perd la moitié, je crois. Et alors, c'est pour ça que j'ai la langue, que je pense que c'est important d'avoir dans la langue différente.
Voor mij is het echt belangrijk dat hij dat in de taal zelf doet. Ik heb vaak ook moeite met boventitels, omdat we het hier hebben over toneelspeelkunst. En toneelspeelkunst is een kunst die op het moment dat je eraan kijkt plaats moet vinden. Op het moment dat de acteur spreekt, moet het publiek dat meemaken. En als je met boventiteling werkt, dan is het publiek altijd te laat of te vroeg, maar nooit op het moment zelf. Valt het samen met de acteur. Dus ik ben heel blij met het feit dat hij dat in alle talen speelt.
Je suis très content de jouer en français parce que j'éprouve toujours quelques difficultés avec le surtitrage parce que le théâtre c'est l'art qu'on joue au moment même, c'est l'art du moment. Alors il y a toujours avec le surtitrage un décalage, une histoire, ça va être trop tôt sur le surtitrage. Donc j'éprouve des problèmes avec le surtitrage.
Merci beaucoup. Donc, deux voix à la Chapellerie dans le 10 au 17, à 15h, une recommandation de Francaise, 15 et 16. Et on se retrouve dans quelques jours pour parler de l'autre spectacle que vous présentez avec votre compagnie, surtitré à la chaîne des yeux. Merci beaucoup. Demain, il y a la conférence de presse, je crois que c'est dans le moment presque la plus. Donc, pour les conférences de presse, rendez-vous dimanche. Merci, et je rappelle aussi, pour ceux qui n'étaient pas là au début, donc les deux cycles qui commencent aujourd'hui, le cycle de lecture d'auteurs contemporains, c'est à midi, où c'est Saint-Joseph, et c'est un peu tard si vous voulez y aller. En revanche, il n'est pas trop tard pour assister au débat qui s'inscrit dans le cadre du théâtre des idées qui commence à